Chapitre 13. Il n'y avait pas au monde une créature plus heureuse que Madame Knightley. Dans ses courtes visites qu'elle faisait à Hartfield, elle allait tous les matins voir ses anciennes connaissances avec ses 5 enfants et racontant tout ce qui s'était passé la veille entre son père, sa sœur et elle. Elle n'avait d'autre désir que d'empêcher les jours de s'écouler si vite. En général, à Hartfield, on voyait moins les amis le soir que le matin. Cependant, il fut impossible, quoiqu'aux fêtes de Noël, de refuser d'accepter un dîner hors de la maison. L'on ne pouvait résister à une pressante invitation de M. Weston. M. Woodhouse lui-même vit que la chose était possible et préférable à la division qui s'opérait chez lui après dîner. Il aurait bien fait quelques difficultés quant au moyen de conduire tant de personnes à Randalls, s'il avait pu. Mais comme la voiture de son gendre et de sa fille était à Hartfield, il ne fit qu'une seule question, et Emma ne perdit pas beaucoup de temps à le convaincre qu'Henriette, outre toute la compagnie, trouverait encore place dans une des voitures. Henriette, messieurs Knightley et Elton furent les seules personnes invitées, comme faisant partie de la société. On devait dîner de bonne heure et en petit comité, car on consultait en tout le goût et les inclinations de M. Woodhouse. La veille de ce grand événement, car c'en était un très grand de voir M. Woodhouse dîner hors de chez lui un 24 décembre, Henriette avait passé la soirée à Hartfield. Elle s'était retirée avec un si gros rhume qu'Emma n'aurait pas permis qu'elle quittât la maison, sans l'extrême envie qu'elle avait d'être soignée par Mme Goddard. Emma s'y rendit le lendemain et vit qu'il lui serait impossible de la ramener à Randalls. Elle avait la fièvre et un grand mal de gorge. Madame Goddard était pleine d'attention pour elle. On parla de M. Perry, et Henriette se sentait si mal qu'elle vit bien qu'il fallait renoncer à cette partie, mais elle ne put s'empêcher de verser bien des larmes, de s'en voir privée. Emma resta auprès d'elle aussi longtemps qu'elle put, pour la soigner pendant les courtes absences que Madame Goddard était obligée de faire. Elle lui releva le courage en lui représentant combien M. Elton souffrirait quand il aurait connaissance de sa situation. Elle la laissa assez tranquille et dans la douce espérance que M. Elton ne s'amuserait pas et que tout le monde regretterait qu'elle ne fût pas de la fête. Elle était à peine sortie de chez Mme Goddard qu'elle rencontra M. Elton qui paraissait y aller et ils marchèrent doucement ensemble en s'entretenant de la belle indisposée. Il allait, dit-il, sur le bruit de sa maladie, en demander des nouvelles afin de lui en donner à Hartfield. Ils rencontrèrent M. John Knightley, qui revenait de sa visite journalière à Donwell, avec ses 2 aînés, qui, à leur mine joyeuse, à leur air de santé, prouvaient combien il était salutaire de courir la campagne. Ils semblaient devoir faire honneur aux rôtis de mouton et aux puddings qui les attendaient à la maison. Emma faisait le détail de la maladie de son ami. Une violente inflammation à la gorge, beaucoup de chaleur par tout le corps, le pouls faible mais battant avec vitesse, etc. Elle était fâchée de dire qu'elle avait appris de Madame Goddard qu'Henriette était très sujette aux maux de gorge, qu'elle en avait été alarmée plusieurs fois. M. Elton parut effrayé et s'écria « Un mal de gorge? Mais il n'est pas contagieux, j'espère. Perry l'a-t-il vu? Vous devriez prendre soin de vous aussi bien que de votre ami. Permettez-moi de vous supplier de ne pas vous exposer. Pourquoi Perry ne l'a-t-il pas vu ?» Emma, qui n'avait aucune crainte, essaya de le tranquilliser sur ses appréhensions en l'assurant de l'expérience et des soins de Madame Goddard. Mais comme elle ne voulait pas les lui ôter tout à fait, au contraire, elle désirait qu'il en retînt une portion, elle ajouta, en changeant de sujet, « Il fait si froid, et il paraît que nous aurons de la neige. » J'en suis certaine que si ce n'était pas à Randalls et avec une telle compagnie, je ferais tout mon possible pour rester à la maison aujourd'hui et dissuader mon père de s'exposer. Mais il s'y est décidé, il paraît qu'il ne sent pas le froid du tout. Aussi, je ne veux pas m'en mêler, car je sais que M. et Mme Weston seraient mortellement offensés si nous leur manquions de parole. Quant à vous, M. Elton, je pense que vous pouvez vous excuser d'y aller. Il me semble que vous êtes déjà un peu enrhumé. Faites attention à la fatigue que vous supporterez demain, aux longs discours que vous serez obligé de prononcer, et je suis persuadée que vous penserez qu'il serait prudent de rester à la maison et de vous soigner. » M. Elton eut l'air de ne savoir que répondre, car, quoiqu'il fût très flatté des soins qu'une aussi jolie personne prenait de lui, et qu'il fût loin d'avoir envie de mépriser ses avis, il était loin aussi de penser à manquer à l'invitation de M. Weston. Mais Emma, trop portée à croire aux notions qu'elle s'était formée de lui, à sa coutume de l'écouter avec partialité, fut très satisfaite de l'entendre dire entre ses dents qu'il reconnaissait qu'il était fort enrhumé. Il continua à dire en marchant qu'il était heureux d'être débarrassé du dîner à Randalls et d'avoir la facilité de savoir des nouvelles d'Henriette à chaque heure de la soirée. « Vous faites fort bien, » lui dit-elle. « Nous vous excuserons auprès de monsieur et madame Weston. » À peine avait-elle cessé de parler qu'elle trouva que son frère venait d'offrir très poliment une place dans sa voiture à M. Elton, s'il n'avait pas d'autre raison que le mauvais temps pour s'excuser d'aller à Randalls, et que M. Elton avait accepté cette offre avec beaucoup de plaisir. C'était une affaire terminée. M. Elton devait être de la partie. Et jamais sa charmante figure n'exprima mieux la satisfaction qu'il ressentait dans ce moment. Son sourire fut plus marqué et son regard plus expressif qu'à l'ordinaire lorsqu'il jeta les yeux sur elle après cet arrangement. « Fort bien, se dit Emma, voilà qui est étrange. Après l'avoir si heureusement dégagé de sa parole, de désirer d'être de la partie et de laisser Henriette malade, c'est en vérité bien étrange. Mais il y a, je crois, chez les hommes, et surtout chez les célibataires, une telle inclination, une telle passion pour dîner dehors, qu'une invitation fait la meilleure partie de leur plaisir. Ils lui sacrifieraient tout, leur temps, leur dignité, quelquefois même leur devoir. Il faut qu'il en soit de même avec M. Elton, jeune homme aimable, qui plaît et certainement estimable, surtout très amoureux d'Henriette. Et cependant, il ne peut refuser une invitation. Quelle chose étrange que l'amour! Il découvre dans Henriette un esprit pénétrant et il ne peut dîner seul pour l'amour d'elle. » Peu après, M. Elton les quitta, elle lui rendit justice et lui sut gré de la manière sentimentale avec laquelle il nomma Henriette en partant, du ton de sa voix, lorsqu'il lui assura qu'il passerait chez Madame Godard pour lui rapporter des nouvelles de sa belle amie. Ce serait la dernière chose qu'il ferait avant de se préparer au bonheur de la revoir, espérant avoir d'heureuses nouvelles à lui apprendre. Son agréable sourire et ses soupirs en la quittant méritèrent son approbation. Après un moment de silence, M. Jean Knightley dit « Je n'ai jamais vu de ma vie un homme aussi occupé du désir de se rendre agréable comme ce M. Elton. C'est un véritable travail pour lui vis-à-vis du beau sexe. Avec les hommes, il paraît naturel et sans affectation. Mais quand il s'agit de plaire aux dames, tous ses muscles, toutes ses facultés sont en jeu. « Les manières de M. Elton ne sont pas parfaites, » dit Emma. « Mais lorsqu'il s'agit du désir de plaire, on doit tout pardonner, et c'est ce qui arrive toujours. Quand un homme, avec des talents modérés, fait tous ses efforts pour se rendre agréable, il emporte souvent sur l'homme qui lui est supérieur, mais qui néglige ses avantages. M. Elton est d'un si bon naturel et a tant de bonne volonté à obliger qu'on doit lui savoir gré de posséder ses qualités. » « Oui, » répliqua M. Jean Knightley avec finesse, « il a beaucoup de bonne volonté pour vous. »« Pour moi ?» répondit Emma avec un sourire de surprise. « Vous imaginez-vous qu'il songe à moi ?»« J'avoue, Emma, que cette idée m'a passé par la tête. Et si vous ne vous en êtes jamais aperçu, vous pouvez maintenant la prendre en considération. »« M. Elton, amoureux de moi ? Quelle idée !»« Je ne dis pas que cela soit. » Mais vous ferez bien de considérer, que mon idée soit vraie ou non, de quelle manière vous devez vous conduire envers lui. Je pense que vos manières envers lui sont engageantes. Je vous parle en ami, Emma. Vous devriez vous tenir sur vos gardes, penser à ce que vous faites et à ce que vous avez envie de faire. Je vous remercie, mais je vous assure que vous vous trompez. Nous sommes bons amis, M. Elton et moi, et rien d'autre. » Elle continua à marcher, s'amusant à réfléchir sur les méprises qui résultent souvent de la connaissance partielle qu'on a de certaines circonstances, des erreurs dans lesquelles tombent presque toujours les personnes qui prétendent posséder un jugement supérieur. Elle n'était pas non plus très satisfaite de son frère, qui la prenait pour une aveugle, une ignorante, et qui croyait qu'elle avait besoin de conseils. Son frère ne dit plus rien. M. Woodhouse s'était si bien confirmé dans son dessein d'aller à Randalls que malgré le froid qui augmentait, il n'avait pas l'air de s'en dédire et partit au temps qu'il avait fixé avec sa fille aînée dans sa voiture, ne faisant pas plus d'attention au temps que les autres. Étonné de son voyage, il sentait le plaisir qu'il causerait à Randalls de le voir arriver par un temps si froid et si bien enveloppé qu'il n'en sentait aucune incommodité. Le froid, cependant, était sévère, et lorsque la seconde voiture se mit en mouvement, il tomba quelques flocons de neige, l'air était tellement chargé qu'il paraissait certain que si le temps se radoucissait un peu, il en tomberait beaucoup. Emma s'aperçut que son compagnon n'était pas en belle humeur. Sortir par un temps pareil, le sacrifice de ses enfants qu'il ne verrait pas après dîner, étaient des maux, ou au moins des désagréments, que M. Jean Nathalie n'aimait pas. Il ne prévoyait aucun amusement dans cette visite qui valut la peine de la faire, et tout le long de la route jusqu'au presbytère, il ne fit que témoigner son mécontentement. « Il faut, dit-il, qu'un homme ait une bonne opinion de lui-même pour engager quelqu'un à quitter le coin de son feu par le temps qu'il fait pour lui rendre visite. Il doit se croire infiniment aimable. Je ne pourrai jamais en faire autant. C'est une grande absurdité. Il neige à présent. » Quelle folie de ne pas permettre aux gens de rester à leur aise chez eux. Quelle sottise aussi à ceux qui ne restent pas à la maison quand ils le peuvent. Et si nous étions obligés de sortir par un pareil temps pour remplir nos devoirs ou faire nos affaires, que cela nous paraîtrait dur. Et nous voilà probablement vêtus plus légèrement qu'à l'ordinaire, courant volontairement sans excuse, sans écouter la voix de la nature qui dit à l'homme de rester à la maison, de s'y tenir à couvert, lui et tout ce qui lui appartient. Nous voilà partis pour passer 5 mortelles heures chez un homme qui ne nous dira et à qui nous ne dirons rien que ce qui a été dit ou entendu hier et qui pourra être dit et entendu demain. Nous y allons par un mauvais temps et nous reviendrons probablement par un plus détestable encore. 4 chevaux et 4 domestiques dérangés pour conduire 5 créatures qui n'ont rien à faire et tremblantes de froid, dans une maison plus froide que la leur et en plus mauvaise compagnie qu'elle n'aurait eue à la maison. Emma ne se sentit pas disposée à donner à son frère le moindre signe d'approbation, signe auquel il était accoutumé par sa compagne ordinaire de voyage, qui répondait toujours à tout ce qu'il disait « Oui, mon cher ami, c'est très vrai !» Mais elle résolut de se taire. Ne pouvant pas se plier à son humeur, elle craignit de s'exposer à une querelle, et tout son héroïsme n'alla qu'à garder un profond silence. Elle le laissa parler, arrangea les glaces, s'enveloppa bien et n'ouvrit pas la bouche. Ils arrivèrent enfin, et lorsqu'on fut dans la cour, que la portière fut ouverte et le marchepied baissé, que M. Elton, bien paré, sémillant, vint en souriant se présenter à eux, Emma pensa avec plaisir qu'on allait s'entretenir d'autres sujets. M. Elton paraissait si content, si joyeux, qu'elle commença à croire qu'il avait reçu sur la maladie d'Henriette un rapport plus favorable que celui qui lui était parvenu. Elle avait envoyé à Highbury pendant qu'on l'habillait et la réponse avait été « à peu près de même, pas mieux ». « Ce que j'ai appris de Mme Goddard, dit-il, n'est pas aussi satisfaisant que je l'espérais. » Pas mieux a été ce qu'on m'a rapporté. » Sa figure alors s'allongea et sa voix prit le ton sentimental en prononçant ces dernières paroles. « Oh non, j'ai été mortellement peinée de trouver... J'allais vous dire que, passant chez Mme Goddard avant de m'habiller, on m'a dit que Mlle Smith n'était pas mieux, qu'au contraire elle allait plus mal. J'ai ressenti une vive affliction, je m'étais flattée qu'elle devait être beaucoup mieux, d'après le cordial que je savais qu'elle avait reçu le matin. » Emma sourit et répondit « Ma visite l'a sans doute tranquillisée, du moins je m'en flatte. Mais je n'ai pas le pouvoir de charmer un mal de gorge. Elle a un terrible rhume. Monsieur Perry a été la voir, comme on vous l'aura sans doute dit. Oui, j'imagine, c'est-à-dire non, je n'en ai rien su. Il a soigné dans ses sortes de maladies, et j'espère que demain nous aurons tous les deux un bulletin plus favorable. Mais il est impossible de ne pas être inquiet. Quelle perte pour notre parti aujourd'hui !»« Terrible, c'est le mot exactement. On ne peut manquer de la trouver à redire à tout moment. » C'était bien dit, et le soupir qui accompagna cette exclamation était digne de louange, mais il aurait dû s'en souvenir plus longtemps. Emma fut indignée lorsqu'une minute après, il se mit à parler d'autre chose avec une allégresse et un contentement parfaits. « Quelle belle invention, dit-il, que de mettre des peaux de mouton dans les voitures. Que cela les rend agréables. Avec de telles précautions, il est impossible d'avoir froid. » Les grandes découvertes de ces temps modernes ont rendu les voitures des gens, comme il faut, parfaitement complètes. On est si bien gardé et réparé contre le mauvais temps que l'air le plus subtil n'y saurait pénétrer sans qu'on le veuille bien. Peu importe qu'il fasse beau ou non, il fait froid ce soir, mais en voiture on ne s'en aperçoit pas. Ah, il neige à présent. Oui, dit M. Jean Nathalie, et je crois qu'il en tombera une grande quantité. Vrai temps de Noël, observa M. Elton, c'est la saison, et nous devons nous estimer fort heureux qu'il n'ait pas commencé hier, il aurait empêché cette partie d'avoir lieu. Ce qui serait probablement arrivé, car M. Woodhouse ne se serait pas hasardé de sortir s'il y eut beaucoup de neige sur la terre. Mais à présent, il importe fort peu qu'il en tombe ou non. Nous sommes dans la saison où les amis se rassemblent. À Noël, chacun s'entoure de ses amis sans penser au temps qu'il fait. Il m'est arrivé d'être retenu par la neige une semaine entière chez un de mes amis. Mon intention était d'y demeurer un seul jour, et je fus obligé d'y en passer huit. Rien de plus plaisant. M. Jean Knightley eut l'air de ne pas comprendre quel plaisir on pouvait éprouver à être retenu par la neige pendant huit jours hors de chez soi. Il se contenta néanmoins de dire froidement « Je ne désire pas que la neige me force à rester huit jours à Randalls. » En tout autre temps, Emma se serait amusée, mais elle était trop surprise de la vivacité de M. Elton pour penser à autre chose. L'espoir d'une partie agréable avait totalement effacé Henriette de sa mémoire. « Nous sommes sûrs d'avoir un bon feu, continua-t-il, et tout ce qu'on peut offrir de meilleur. Monsieur et Madame Weston sont des gens charmants. Madame Weston est au-dessus de tout éloge, et quant à lui, il est tout ce qu'on peut désirer, très hospitalier et grand amateur de la société. » Cette partie n'est pas nombreuse, mais elle est si bien choisie, et de telles parties sont les plus agréables de toutes. On ne peut être à son aise que 10 dans la salle à manger de M. Weston. Quant à moi, en pareilles circonstances, j'aimerais mieux qu'il y en eût 2 de moins que 2 de plus. Je pense que vous serez de mon avis, se tournant d'un air flatteur vers Emma. Je crois être sûr de votre approbation. Mais peut-être que M. Knightley, accoutumé aux grandes parties de Londres, ne sera pas du même sentiment que moi. Je ne connais pas les grandes parties de Londres, monsieur. Je ne dîne jamais chez personne. En vérité, dit-il d'un air d'étonnement et de pitié, je n'aurais pas cru que les gens de loi fussent réduits à un pareil esclavage. Mais, monsieur, il viendra un temps où vous serez récompensé de toutes ces privations. Alors, vous aurez moins de travail et plus de plaisir. Le premier plaisir que je ressentirai sera quand je serai de retour, sain et sauf, à Hartfield.